C'est en fait on passe à un autre point. Je me suis beaucoup attardé sur le point précédent, mais c'est nécessaire parce que il y a des vérités qu'il faut approfondir un peu plus que les autres. Et là, il s'agit de la création. Peut-être nous n'allons pas passer beaucoup de temps sur la création, mais néanmoins, il y a des choses à dire. C'est-à-dire que nous croyons que Dieu a créé le monde et qu'il a créé toutes choses. Tout ce que nous voyons, il l'a créé. Tout ce qui est visible et tout ce qui est invisible. C'est Dieu est l'auteur de toutes choses. Il n'y a que lui qui n'est pas créé. Tout le reste a été créé. C'est le Dieu tout-puissant et le créateur de toutes choses. Et il est le créateur dans les trois personnes. Dieu n'est pas créé dans aucune de ces personnes. Il y a des mouvements dits chrétiens qui disent que Jésus est la première des créatures de Dieu ou que le Saint-Esprit est aussi une création de Dieu ou c'est une émanation de Dieu. Mais tout cela n'est pas biblique et la parole de Dieu le démontre d'une manière clairement que tout cela est faux. Mais ce qui est par contre, tout le reste est créé par un seul auteur, c'est Dieu. Nous croyons que le premier chapitre de la Bible, le chapitre 1, eh bien, nous parle de la création de Dieu, tel que Dieu a créé. Il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de nuances, il y a beaucoup de questions, mais néanmoins, nous plaçons notre foi que Dieu a créé toutes choses. Et que quand il est question de jour, eh bien, Dieu a vraiment créé en un jour. C'est que ce ne sont pas des périodes de temps ou comment dire, un temps indéterminé, mais c'est vraiment, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. C'est-à-dire qu'il y a une. Clairement, c'est dit, hein, un soir et un matin nous définissent dans une période de 24 heures. Donc, nous savons ce que c'est qu'un soir et un matin. Et donc, c'est une limite. C'est vrai que le mot hébreu, yom, veut dire jour, mais veut dire aussi période. Tout dépend, hein, le contexte dans lequel il se trouve. On n'a pas de doute qu'il y a deux possibilités. Mais néanmoins, quand Dieu dit qu'il y a un soir et il y a un matin, cela nous donne une indication claire qu'il s'agit d'un jour, un jour de 24 heures. Parce que le contexte donne ce sens au mot yom, le mot jour. Si il n'y avait pas ce soir et ce matin dans le texte, eh bien, on pourrait dire c'est une période. Cela laisserait la possibilité à une période. Mais du fait qu'il y a un soir et un matin, la possibilité de période n'est pas possible. C'est donc un jour de 24 heures. Voilà. Donc c'est cette manière de faire qui est de voir, qui est exacte et qui est biblique, disons. Après, voilà, vous avez des multitudes de découvertes archéologiques et paléontologiques, etc., qui mettent beaucoup de questions. Alors, il y a les couches, il y a beaucoup de théories d'évolution, que voilà, il y a des couches. Et toutes ces couches, eh bien, plus la couche est épaisse, plus la période a duré. Et moins la couche est épaisse, moins elle a duré. Et si vous trouvez dans une couche certains ossements, eh bien, cela veut dire qu'il y a des animaux qui ont vécu à cette période-là. Et si vous trouvez d'autres ossements, eh bien, ce sont d'autres animaux, d'autres couches. Donc, on détermine l'âge des couches par rapport aux ossements qui s'y trouvent et à leur épaisseur. Donc, il y a eu des calculs qui ont été faits parce que on a des instruments de mesure, hein, des compteurs qui permettent de mesurer la durée et mesurer la date des ossements qui se trouvent dans les couches. Et je ne vais pas rentrer dans des détails, mais pour les étalonner, il a fallu à un certain moment, parce qu'ils ont un cadran, ils ont une aiguille, et ce n'est pas arbitraire, hein, il faut à un certain moment étalonner la chose, et trouver les proportions et diviser le cadran. Il faut à un certain moment, hein, je ne sais pas, maintenant c'est peut-être plus des cadrans, c'est des compteurs numériques, mais néanmoins, tout cela a besoin d'un étalonnage. Et l'étalonnage se fait par rapport à l'épaisseur des couches. Mais ce qui veut dire que ce qui il y a une uniformité dans le temps et dans quand vous avez des couches, c'est de l'érosion. C'est-à-dire que la pluie et le vent, hein, le vent aussi produit une érosion. Et tout cela s'accumule avec les siècles et les millénaires, et voilà, ça s'entasse, ça s'entasse, ça s'entasse d'une manière régulière. Alors on dit, pour une année, eh bien, il faut compter, je ne sais pas, je n'ai pas un ordre bien précis, hein, je n'ai aucune idée, je dis, disons 1 mm par an. Donc si vous avez 1 mètre, vous faites le calcul et vous verrez que c'est 1 000 mm, donc vous avez 1 000 ans. Et si vous avez plus, vous avez moins, voilà. On détermine à peu près comme ça. Mais le problème, c'est que l'érosion ne se fait pas d'une manière régulière. Jamais. Et nulle part. Donc tous ces calculs sont faux. On part d'une idée fausse et on arrive à des conclusions fausses. Et on est arrivé, par exemple, on vous dit, oui, mais une stalactite. Et une stalagmite, hein, ça, stalactite, ça tombe, et les stalagmites, ça monte. C'est une mnémotechnique. Donc, vous avez ces piliers qui sont dans les grottes, et on vous dit, il y a 1 mètre, et ça représente une érosion du calcaire pendant des milliers d'années, des centaines de milliers d'années, parce que. Mais le problème, c'est que j'ai vu une photo d'une chauve-souris qui était emprisonnée dans le calcaire. Et elle était comme fossilisée dans le calcaire. Donc on ne peut pas dire qu'il y a une couche infinitésimale qui s'est posée sur le pilier et qui a enterré cette chauve-souris. Parce qu'elle se serait décomposée bien avant et on ne la retrouverait pas, tout simplement. Il a fallu une forte précipitation de calcaire pour l'enrober et la fossiliser dans le calcaire. Donc elle est emprisonnée là-dedans. Voilà. Alors donc ça c'était et ce genre de choses, vous avez comment dire, de démonstration, eh bien vous en avez beaucoup. Par exemple, dans une couche, vous trouvez un arbre planté dans la couche, hein. Et vous avez, non, disons dans la terre. Donc on détermine les couches, mais ça, l'arbre représente par exemple 100 000 ans de couches. Vous dites, mais alors c'est pas possible, l'arbre, comment il est resté là 100 000 ans, c'est pas possible. Donc il y a beaucoup d'arguments comme cela et d'idées. C'est vrai que tous ces animaux ont existé. C'est vrai que toutes ces choses, toutes ces faits sont réels, mais le problème, ce sont les conclusions. Ce n'est pas le. Après, il y a des mauvaises constatations. Mais le problème, le plus grave problème, c'est que ce monde ne veut pas de Dieu et ne veut pas surtout être créé par Dieu. Donc, si il n'est pas créé par Dieu, c'est un animal et il est capable de faire ses propres choix, c'est faire n'importe quoi. Il n'y a rien de moral dans rien. Ce n'est pas possible, donc ils sont libres. Mais à partir du moment où il y a un Dieu, il y a un créateur, un jour il faut rendre des comptes au créateur pour ce que nous avons fait de notre vie. Et là, toutes les hypothèses, on peut leur donner un nom scientifique, mais sont bonnes pour faire de l'homme un être qui existe par hasard, parce qu'il n'a pas de compte à rendre. Donc notre société inculque le fait que nous ne sommes que des animaux et qu'il y a une évolution et que nous avons des ancêtres qui étaient dans les océans et qui sont sortis un jour, etc. Pour justement enlever Dieu de notre vie. Parce que si l'homme est une créature, s'il a été créé, alors il est responsable de ses actes et un jour il doit rendre des comptes. Et ce monde ne veut pas que les habitants, nos contemporains, eh bien, soit croyant en Dieu, parce que cela change tout. Et cela va bouleverser beaucoup de situations commerciales et artistiques, etc. Et il faut que l'homme descende d'un singe. C'est beaucoup plus pratique et beaucoup plus intéressant. J'ai lu dernièrement dans un journal de vulgarisation scientifique qu'on a fait, on fait des découvertes de plus en plus grandes sur les animaux. Hein. On se rend compte qu'ils ont une intelligence et que même une intelligence assez pointue et sur certaines choses, même, ils nous dépassent dans l'intelligence. C'est donc j'ai vu par exemple un article sur des singes, des chimpanzés, et qui, soumis à une éducation, joue au memory. Mais les enfants ont joué au memory. Hein. Eh bien, ne jouez jamais avec ces chimpanzés au memory, hein, parce que vous avez perdu. C'est pas possible. Ils se souviennent de toutes les pièces qui sont retournées. Hein. Ça se retourne, on les remet, et ils s'avouent. Hein. Et vous avez oublié, mais eux, non. Et si vous réduisez même le temps, c'est tourné hop, comme ça, vous avez encore moins de chances. Mais eux, ils gagnent toujours, parce qu'ils voient plus vite que nous. Donc, l'animal est bête, il est stupide et tout ça, oubliez-le, ils sont plus intelligents qu'on le pense. Mais ce qui est très intéressant, c'est que dans ce journal, dans un autre article, il dit que ce qui fait la supériorité de l'homme, ce n'est pas que nous avons une intelligence supérieure, c'est que nous avons un sens moral que l'animal n'a pas. Et ces évolutionnistes ne savent pas quand cet animal qui a évolué a eu ce fameux sens moral. Nous lisons dans la Bible que Dieu a mis dans l'homme son souffle. Il est devenu une âme vivante. C'est-à-dire qu'il a une capacité morale. C'est en dehors de beaucoup, il y a beaucoup plus que cela, mais il a des capacités morales. Par exemple, vous avez un chien, j'en ai eu, hein, et le chien, j'ai eu un chien et une chienne. Et le chien, arrivé de la promenade, il se précipitait, il buvait. Alors, la chienne attendait. Et puis se coucher devant la gamelle, et la chienne attendait toujours que monsieur s'en aille. Alors moi, je prenais le chien, je le sortais, et puis je mettais la chienne. Mon père m'a dit, mais t'énerve pas, c'est plus simple. Il a mis une deuxième gamelle, et alors c'était terminé. Il ne pouvait pas garder les deux gamelles. Voilà, alors c'est là le sens moral. Nous, on est humains, on se révolte. On se dit, mais qu'est-ce que... Mais pour l'animal, non, hein. Ce sens n'arrive pas. Il n'y a pas de sens moral. Et ça, c'est vrai pour des multitudes d'autres choses. Hein. Dans beaucoup de situations, l'homme manifeste sa supériorité par son sens moral. Voilà. Ça, et les scientifiques de ce monde sont obligés de l'admettre. Donc, la question de l'évolution, c'est une question mal posée. C'est-à-dire qu'on tire des conclusions et on enseigne quelque chose qui est faux, parce que c'est basé sur de mauvaises conclusions. C'est en fait la véritable raison, c'est que on ne veut pas que nous croyions en Dieu et que les générations qui viennent ne croient pas en Dieu. Parce que si nous croyons en Dieu, alors nous sommes responsables et nous devons faire les choses d'une manière totalement différente. On doit se poser des questions, on doit avoir une vie morale. On n'est pas des animaux et on doit surveiller notre vie. Et ensuite, eh bien, un jour, il faut rendre des comptes à Dieu parce qu'il est le créateur, il est le maître, il est le seigneur. Alors, il faut admettre que Dieu, eh bien, a besoin d'être respecté, honoré, recherché, sanctifié, adoré. Et cela ne fait pas les affaires de ce monde. Donc, l'idée que l'on nous enseigne, c'est que nous sommes en pleine évolution. Et je me rappelle d'une lecture d'un roman évolutionniste. C'est ne sais plus si c'est la guerre du feu ou si c'est le félin géant, Rosny aîné. Mais il disait toutes ces créatures en pleine évolution. Alors je me suis dit, mais est-ce que ce sont des créatures ou est-ce que ce sont des produits d'évolution? Parce que créature, il y a un créateur. Et toutes ces créatures en pleine évolution, c'est, vous voyez le non-sens. Et dans un journal sur les dinosaures, comme j'aime beaucoup cela, j'avais beaucoup de journaux sur cette question-là, et de temps en temps, le petit mot créature sortait. Et alors, créature, ça veut dire qu'il y a un créateur. Et malgré tout, malgré qu'ils sont obligés de temps en temps, il y a le mot qui ressort. C'est, vous avez beau faire, parce que c'est, on est des créatures. Rien de plus, c'est tout. Et c'est des, rien de plus, rien de moins. C'est des, nous sommes des créatures et nous sommes responsables pour notre vie. Et un jour, il faut rendre des comptes. C'est, il y a deux versets, que Genèse 2, verset 1. C'est la création de l'homme. Non, c'est la fin de la création. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toutes leurs armées. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Voilà. Dieu bénit le septième jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Et quand vous lisez ce dernier verset, ce verset 3, eh bien, il y a un jour qu'il faut sanctifier. C'est un jour où Dieu s'est reposé et c'est le jour du repos. Et il y a un jour que l'on passe à adorer Dieu, à chercher Dieu. Et j'étais très surpris en lisant des lectures missionnaires de voir que les missionnaires, quand ils sont arrivés dans des pays où jamais l'évangile n'avait été annoncé, la première chose qu'ils faisaient, la première avant toute autre chose, ils instituaient le culte du dimanche. Ils n'instituaient pas un culte, ils instituaient trois cultes. Il n'y avait encore personne de converti. Personne n'avait encore entendu l'évangile. Mais le dimanche, c'était le jour du repos. L'homme a été créé le sixième jour. Et à la fin même du sixième jour, parce qu'il a créé beaucoup d'autres choses avant. Mais c'est la dernière des créations de Dieu, hein, l'ordre. Mais néanmoins, c'est quand l'homme est arrivé, eh bien, il a profité immédiatement du repos. Le premier jour de l'homme, c'était le jour du repos. C'est le premier jour. C'est très, très important de sanctifier un jour. Ou que l'on met à part, c'est-à-dire sanctifier, ça veut dire mettre à part. Hein. On met à part ce jour pour Dieu, pour le glorifier, parce que nous sommes des créatures de Dieu. Et nous avons été créés le sixième jour, et nous sommes entrés directement dans le repos de Dieu. Je pourrais allonger et dire qu'en Christ, nous sommes rentrés aussi dans le repos de Dieu, et que, hein, bon, je ne veux pas aller plus loin, mais c'est très, très important de se souvenir de cela. Aujourd'hui, eh bien, l'homme remet en question ce jour du repos. Et je voudrais ouvrir juste une petite parenthèse. Mais je fais toujours attention de ne rien acheter le dimanche. Parce que le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Et il m'est arrivé de transgresser cette règle. Mais je ne suis jamais content de moi quand je la transgresse. Parce que ce n'est pas le dimanche, c'est un jour de repos pour tous les hommes. Et je crois qu'il faut bien bien faire attention à ce qu'on fait ces jours-là. Et c'est vrai que, bon, vous me dites, mais tu prends le métro, il y a quelqu'un qui le conduit. C'est vrai. Et il y a des gens qui sont derrière les guichets, qui sont derrière les commandes du métro, et on prend les bus, etc., etc., etc. Et dans les hôpitaux, et bien, il y a des gens qui travaillent le dimanche. C'est vrai. Il y a des situations qui sont comme des exceptions. Il faut bien bien faire attention que l'exception ne devienne pas la règle. Il y a un septième jour dans la création, et ce septième jour, c'est le jour du repos. Et comme nous croyons en Dieu, Et comme nous croyons que l'homme est créé le sixième jour et que tout a été créé par Dieu, et nous croyons aussi que le septième jour, Dieu s'est reposé. Alors, c'est le jour de sanctifier Dieu, pour sanctifier Dieu, pour s'approcher de Dieu, pour adorer Dieu, pour le glorifier. C'est vrai qu'on le fait tous les jours, mais néanmoins, ce jour-là est un jour spécial, qui est consacré. Voilà. Et puis vous avez Hébreux, chapitre 11. Alors, Hébreux 11, c'est le chapitre sur la foi. Excusez-moi de passer du temps. C'est le verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Voilà. C'est par la foi. Alors, il est vrai que beaucoup de chrétiens essayent de démontrer scientifiquement que tout est. Hein, c'est le. Ils essayent de trouver des compromis avec une évolution et une évolution création, etc. Mais la parole de Dieu nous enseigne que c'est par la foi. Alors, on commence par la foi. Après, s'il y a des évidences scientifiques, c'est très bien. S'il n'y en a pas, tant pis. Mais la parole de Dieu nous dit que c'est par la foi. Un jour, j'étais à l'université de Perpignan et j'avais mon stand biblique avec mes Bibles et les livres chrétiens. Et il y a un étudiant qui s'est approché, il m'a dit, mais vous croyez à l'évolution? Alors, je lui ai dit non. Comment ça, vous ne croyez pas à l'évolution? Non, je crois qu'il y a une création, que Dieu a créé toute chose. On m'a dit, comment ça? Et je lui ai expliqué. Il m'a dit, mais vous savez, on trouve. Je lui ai dit, écoutez, c'est pas cette question-là, je ne suis pas assez scientifique pour la discuter. Ce n'est pas mon niveau. Vous en savez sans doute beaucoup plus que moi. Mais le problème, c'est que c'est la première page de la Bible. C'est si je ne crois pas à la première page de la Bible, comment est-ce que je vais croire le reste de la Bible? Il m'a dit oui, ça c'est vrai. Parce que au fond de lui-même, il était croyant. Et il avait besoin de ce parce qu'il avait cette question-là. Est-ce qu'il y a l'évolution ou la création? On en est où? Il y a une création de Dieu. Voilà. Alors après, il y a des chrétiens qui nient tout. Alors ce n'est pas la bonne méthode non plus. On ne nie pas. Il y a des faits, il y a des choses qui ont des découvertes, il y a des os, et donc il y a eu des animaux qui ont vécu à un certain moment, il y a ceci, il y a ça, mais le problème, ce ne sont pas les ossements, ce sont les conclusions. Et souvent, bien, les conclusions sont faites pour favoriser la théorie de l'évolution. Alors, nous, on croit par la foi. On n'a pas les explications, on n'a pas toutes les explications, et nous ne sommes pas tous des scientifiques. Et nous ne sommes pas arrivés peut-être à un niveau de découverte suffisant pour avoir les bonnes conclusions, les conclusions suffisantes. Et peut-être que nous n'aurons jamais tous les éléments. Mais de toute façon, c'est écrit dans la Bible. Alors nous le croyons. Et nous nous attachons à ce qui est écrit dans la Bible. Alors pour certains, c'est du fanatisme, c'est de l'obscurantisme, c'est tout ce que vous voulez. Ils vont nous accabler de tous les adjectifs pour nous faire de nous des coupables. Mais la parole de Dieu nous dit que c'est par la foi. Nous croyons que tout ce qui a été fait est fait de choses invisibles. Voilà. Et plus les scientifiques cherchent, et plus ils se rendent compte que c'est plutôt invisible que visible. Voilà. Et qui a vu ces petites parties infinitésimales qui sont dans la matière, hein, les plus petites parties. C'est invisible. Et tout ça, c'est une construction. C'est comme des briques. Hein, c'est assemblé les unes choses sur les autres. Ça tient, on ne sait pas comment, par une puissance. Alors, hein, mais voilà, c'est fait par l'invisible. Et ce monde dit que oui, tout ce que l'on voit est fait par des choses infiniment petites, que même les microscopes n'arrivent pas, et les microscopes électroniques, etc., les plus grands, n'arrivent pas à voir. Mais néanmoins, la parole de Dieu avait dit depuis très longtemps que ce que l'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Et c'est composé d'invisibles, plus que de visibles. Voilà.